This is the Humans Link Audio Experience.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humansling.com. On se retrouve ce matin, mercredi, il est 7h30 ici à Montréal et en Guadeloupe, plus 6h si vous êtes en Europe. Bienvenue pour l'instant T, premier épisode. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui le cofondateur de Humanslink, Jean-Luc French. Salut Jean-Luc.
Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'instant T, je suis très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est l'abolition de l'esclavage et je suis à la maison. Alors, vous allez peut-être entendre, on est à la campagne ici et donc peut-être entendre quelques oiseaux qui chantent. Ils sont très nombreux depuis quelques temps. Et je vais couper mon micro pour ne pas vous importuner de temps en temps. Mais voilà, je suis avec la nature aussi.
Bonjour, il y a Sébastien ici qui est à Montréal qui nous salue. Salut Sébastien, ça fait plaisir de te voir connecté. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous pouvez nous suivre donc sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je pense c'est à la chaîne Humanslink, youtube.com/humanslink, puis activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Le nouveau format dans cette période de déconfinement, on se retrouve en fait le mercredi à 7h30 le matin. Heure Amérique, donc Caraïbes et Amérique du Nord. Et le vendredi à 13h30 pour une pause café, un format où on reçoit diverses personnes, des experts pour avoir une conversation humaine, garder le lien et puis favoriser l'entraide et la solidarité. Aujourd'hui, l'objectif de ce live avec Humanslink, c'est de pouvoir accompagner en fait cette période de transition qu'est le déconfinement. Nous, dans notre métier, on est en contact avec de nombreuses entreprises, des chefs d'entreprise, mais aussi des entrepreneurs, des managers, des RH. Et si vous voulez, le message ici, c'est vous n'êtes pas seul. Vous pouvez nous poser vos questions et on peut y répondre, on peut guider, réfléchir ensemble, discuter. Parce qu'effectivement, après une longue période de confinement, le déconfinement n'est pas, c'est pas un bouton on-off, un switch qu'on rallume et tout repart comme avant. Il y a certaines préoccupations, il y a une réalité à partager. D'ailleurs, je profite pour vous dire, ce format instant T, c'est surtout l'idée de pouvoir vous donner la parole et donc vous avez la possibilité de venir nous rejoindre sur le live. Donc si vous êtes intéressé, dites-le nous en commentaire, que ce soit sur YouTube et sur Facebook. Avec Jean-Jacques, on regarde ça de très près. Et donc, du coup, vous pouvez aussi nous écrire sur l'adresse email du live, donc live@humanslink.com. Et à ce moment-là, on va pouvoir recevoir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis pour la semaine prochaine, en écrivant cette adresse email-là, vous pouvez intervenir avec nous. Et voilà. Donc, est-ce que de ton côté, Jean-Jacques, tu partageais avec moi ce matin qu'on a plusieurs entreprises, nous, et des clients qui parlaient de burn-out ou de certains challenges pour redémarrer. Mmh. C'est que on a d'un côté, il y a deux équipes. Il y a l'équipe des gens qui se posent un peu la question de OK, mais pourquoi ça est arrivé? Est-ce que ça a mis en avant certaines failles de notre manière de fonctionner? Et donc, qui ont cette réflexion, cette remise en question, peut-être avec une certaine profondeur. Et puis, on a aussi d'autres qui c'est OK, mais tout simplement, comment on fait pour rebooster, redynamiser l'économie et puis rallumer la machine et repartir à fond. Et donc, dans les deux cas, il y a des expériences humaines qui sont différentes.
Oui, c'est vrai que ce matin, on en parlait et j'avais comme idée de partager mon sentiment par rapport à ça, qui était de dire que le contexte dans lequel nous vivons est quand même particulier, puisque nous sommes, pour certains, n'avons pas pu travailler pendant 2 mois. Il y en a d'autres qui ont pu travailler dans des conditions particulières, des conditions qui n'étaient pas celles habituelles, en tout cas, et des conditions stressantes qu'ils ont dû s'exposer. Donc, il y en a qui n'avaient pas de masque, etc. J'ai discuté avec une personne qui était dans une pharmacie, qui était responsable d'une pharmacie, qui racontait comment c'était compliqué de pouvoir tenir prendre en compte. Alors, c'est leur métier. Tous les jours, ils sont en train de servir des clients qui sont potentiellement malades et qui pourraient avoir, transmettre leur maladie aux personnes qui sont au comptoir. Et là, ça a été une situation encore plus inquiétante puisque ce Covid a été dans les médias, en tout cas aussi, et par les chiffres qui étaient transmis, véhiculé comme quelque chose de vraiment très dangereux et qui nous a fait vraiment, pour la plupart d'entre nous, avoir peur, peur de la mort. Et donc, c'est une situation très stressante que nous avons vécue, soit au travail, soit même à la maison, en train de regarder toutes ces informations qui passent. Donc, la reprise, j'ai envie de dire, ce que nous avons aussi comme beaucoup de, comme retour, c'est des questions sur comment faire pour reprendre, comment faire pour remobiliser les gens, comment faire pour faire revenir au travail les gens qui ont été pendant 2 mois au chômage partiel et qui avaient une partie de leur salaire et qui travaillaient pas. Donc comment les motiver à revenir. Et donc notre réflexion, c'était de prendre en compte, de vraiment prendre en compte ce qui a été vécu. Même si nous n'avons pas vécu tous la même chose, il faut aller vérifier ce que les autres, les collaborateurs ont vécu, comment ils l'ont vécu et comment ils l'ont perçu, vécu, ressenti. Et il y a souvent, ce que on a observé, souvent des jalousies entre les traitements. Il y a eu des personnes qui étaient au chômage partiel, donc qui étaient à la maison, qui n'ont pas travaillé. Il y en a d'autres qui ont dû travailler en chômage, en télétravail. Mais le télétravail dans ces conditions n'était pas optimal. Ça aussi, c'est un point important que j'avais envie d'apporter. Oui. Parce que ce télétravail, finalement, il a été mis en place en urgence dans des conditions qui ne sont pas du tout optimales. Les gens n'avaient pas le choix. Les gens étaient 100% télétravail, qui n'avaient plus ou très peu de contact avec leurs équipes. Donc socialement c'était inquiétant avec tout le milieu très anxiogène qui entourait tout ça, avec les enfants en plus qui n'étaient pas à l'école à ce moment-là, et donc gérer la famille, gérer le travail dans des conditions. J'ai aussi eu une personne à la banque qui me disait comment c'était compliqué de travailler puisque son système avec la sécurité imposée, aussi des lignes sécurisées, ralentissait énormément son travail, et elle préférait quitte à s'exposer venir travailler à l'agence plutôt que de rester à distance au travail, enfin à distance à la maison, parce que son ordinateur ramait. Donc les conditions n'étaient vraiment pas optimales, donc ça a été un effort d'adaptation pour la plupart des collaborateurs, la plupart des chefs d'équipe, la plupart des... Et ce qu'on observe aussi maintenant, de près ou de loin, c'est qu'on a tous envie, on voudrait tous que ça redémarre, et quelque part, on veut redémarrer comme avant, alors qu'à mon avis, c'est pas possible de faire comme si de rien n'était, quoi. C'est ça l'idée. Et donc, de prendre en compte, dans l'accompagnement des équipes, ça serait je suis en train de le lire, le commentaire de Sébastien. Est-ce que nous devrions pas plutôt parler de démarrage, de nouveau paradigme humain plutôt qu'un redémarrage économique? Je suis entièrement d'accord avec toi, Sébastien. En effet, le redémarrage économique ne peut pas se faire si on n'a pas décidé de le faire peut-être différemment. De toutes les façons, tout ne peut pas redémarrer en un claquement de doigts. Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est aussi une réflexion intéressante? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que dans la démarche que nous avons vécue jusqu'à présent, est-ce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a vécu jusqu'à aujourd'hui, est un monde qu'on a envie de continuer à vivre, à produire des déchets, à produire, à extirper les ressources de la planète impunément, en sachant que il y a des limites. Les limites sont notre santé, les limites sont les relations sociales et l'équilibre de tout ça. Donc, je suis convaincu qu'on pourrait encore, mais il ne faudrait pas, en tout cas, faire comme si de rien n'était. Alors, c'était ça le sujet. Donc, si vous avez c'est un des sujets que j'avais envie de partager avec vous, d'avoir votre avis, de dire. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comment redémarrer, comment démarrer ce nouveau paradigme? Il y en a qui n'y croient pas du tout, qui me disent, mais Jean-Jacques, tu rêves, quoi. En 2 mois d'arrêt, les gens, les humains sont très peu, ils se souviennent très peu de ce qui leur a fait mal. Et on va vite oublier et ça va.
Ouais, ouais. Biologiquement, on est conçu pour fonctionner comme ça, pour oublier et passer assez rapidement à autre chose relativement. D'ailleurs, Sébastien, je vois que tu as qui a commenté ici sur Facebook et qui nous écoute en live. J'ai posté dans la zone de commentaires un lien Bit.ly, instant T. Vous pouvez nous rejoindre pour nous faire un coucou en vidéo et partager un 5 minutes. Donc, d'ailleurs, Sébastien, si tu es dispo, ce serait chouette de partager, que tu puisses voir avec nous comment ça s'est passé la transition. Parce que Sébastien travaille à l'université de Sherbrooke, ici à Montréal. Et au campus de Longueuil. Et je sais qu'ils ont très rapidement été capables de s'adapter au télétravail. Puis, je crois qu'il y a une reprise qui est prévue pour le 1er juin. Ça peut être intéressant de voir spécifiquement sur cet aspect-là, assez concrètement finalement, qu'est-ce qui s'est passé, les différentes étapes, comment ça a été communiqué, comment est-ce que chacun était déjà équipé ou pas. D'ailleurs, si vous nous écoutez en direct et que vous aussi, vous avez dû faire du télétravail ou adapter l'environnement de travail. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains de clients qui ont dû continuer à travailler. Je pense à des entreprises de distribution, par exemple, qui devaient continuer d'opérer pour pouvoir fournir en marchandises et en produits de consommation pour les services sanitaires, entre autres.
Oui, alors, avec plaisir, si Sébastien veut venir, qu'on puisse échanger. Ce que je peux, en attendant, peut-être compléter, c'est qu'effectivement, quel serait le nouveau paradigme, ça aussi est intéressant de parler de ça, parce que nous avons des idées là-dessus, évidemment, nous avons des propositions dans ce nouveau paradigme. Et la réalité aussi, c'est que les salariés qui sont en train de reprendre, les chefs d'équipe et les managers et les chefs d'entreprise aussi, se posent souvent la question de d'économie. Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais garder mon entreprise? Est-ce que ça va pouvoir redémarrer? Là, c'est une question économique pure. Et il y a la question de la santé, évidemment, puisque on est tous, quand on va dans les commerces, ils sont tous masqués, tout le monde a des protections avec des vitres, etc. Et donc, la distanciation sociale, moi, je préférerais beaucoup plus la distanciation physique que la distanciation sociale, puisqu'on peut garder ce lien social qui est important. C'est d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi choisir ce mot? Ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi on voudrait créer une distanciation sociale?
On parle de gestes barrières aussi.
Ouais, c'est ça. Tous ces mots qui sont pour nous séparer, enfin qui sont inconsciemment favorables ou intrusifs dans notre liberté, dans notre sentiment de liberté personnelle. Pourquoi se fixer ces limites? Est-ce qu'on veut diviser pour mieux régner? Est-ce que c'est fait inconsciemment ou consciemment? Je ne sais pas. En tout cas, ce que ça peut provoquer, c'est la méfiance de l'autre. L'autre est potentiellement dangereux, il peut porter le virus, il peut porter la maladie, il peut porter la mort. Et donc, c'est vraiment inconsciemment, ou plus ou moins sensiblement perçu, les gens, mais ça entretient une méfiance, ça entretient la peur, ça entretient, et physiquement, on le voit. Donc, c'est très anxiogène aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut être contre les gestes barrières, non. Mais de tenir compte de cet aspect psychologique.
Pour faire un petit clin d'œil. C'est de comprendre, en fait que même si en tant que chef d'entreprise ou manager, nous on le vit pas comme ça, mais que c'est une réalité qui est vécue par.
Oui.
Potentiellement par les membres de notre équipe et de nos équipes, en fait.
Avec plus ou moins de sensibilité. C'est là que l'humain est unique. C'est que si nous le vivons d'une certaine façon, il y a de fortes chances à parier que l'autre ou les autres vivent les choses certainement de façon différente ou sensiblement différente. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire, mais qu'est-ce que vit l'autre, en fait, c'est pas pour m'embêter qu'il me dit ça, mais peut-être que réellement c'est un problème pour lui, et donc tenir compte de ce que vit l'autre, la perception que l'autre a et son vécu, et peut-être d'en discuter, ça permet aussi de s'aligner sur les perceptions et de pouvoir aussi rassurer, prendre en compte en tout cas ses besoins, cette perception, ses besoins. Pour la petite anecdote qui me fait sourire, c'est que cette semaine, j'étais pour réparer ma voiture et puis il y a une personne qui était derrière sa vitre avec un masque et puis il me dit « moi aussi, je ne peux pas rentrer sans masque, donc j'avais mon masque » et il me dit « où est-ce que vous avez trouvé votre masque ?» Je dis ben, « c'est mon épouse qui en a parce qu'elle est déléguée médicale, donc elle m'en a prêté un, donné un. » Et puis il me dit « oui, parce que moi, ça fait 3 semaines que je porte le mien. » C'était un masque chirurgical et donc c'est un masque qui peut durer que 4 heures. Et je lui dis « mais est-ce que c'est bien utile après 3 semaines ? Est-ce qu'il est encore… » Il me dit « je sais pas, mais j'arrive pas à en avoir d'autres. Et c'est le seul avec lequel j'arrive à respirer parce que j'ai essayé tous les autres masques et j'arrive pas à respirer. » Donc, quel est le sens que ça a de porter un masque pendant 3 semaines ? C'est celui-là que j'ai parce que je peux pas en trouver d'autres parce que j'arrive à respirer avec celui-là. Donc, c'est des difficultés de respiration. Je suis au travail derrière une vitre. Il me faut quand même porter un masque. Et je vis cette situation en me disant, mais ce masque, ça fait 3 semaines que je le porte, il ne sert plus à rien, mais je le porte quand même. Enfin, donc, il y a tous ces éléments-là. Je vais partager avec lui qu'il y avait peut-être aussi le fait de respirer pendant des heures et des heures derrière un masque, la circulation se faisant moins. Bon, je ne dis pas que la respiration était moins efficace, moins d'oxygène, plus de CO2 dans l'organisme, petit à petit. Il fallait peut-être respirer de temps en temps de l'air pur. Et quelques minutes après, je l'ai vu sortir, il n'avait plus de masque. Alors, il était à l'écart, mais il n'avait plus de masque. Et ça, c'est aussi ce qui peut se passer dans la tête des personnes qui travaillent, qui sont contraintes d'utiliser des conditions, des gestes barrières, les conditions de sécurité, d'hygiène, mais qui mettent les gens dans une situation mentale particulière pour travailler. Alors, voilà.
D'ailleurs, je suis curieux, dites-nous en commentaire comment vous, dans votre entreprise, vous avez dû vous adapter ou est-ce que vous avez été client dans une entreprise et vous avez observé comment eux, ils se sont adaptés. On a vu sur Facebook et sur les réseaux en général, il y a plusieurs entreprises qui ont filmé, qui ont montré leur parcours et comment ils ont dû mettre en place, adapter en fait leur expérience client pour se conformer aux règles de distanciation sociale, les fameux gestes barrières, avec la prudence qui est recommandée par l'État. Donc ça, et puis aussi, je suis curieux de voir comment les gens dans l'entreprise le vivent et est-ce qu'il y a de la réticence ou au contraire, est-ce que les gens sont enchantés de pouvoir respecter ces nouvelles règles ? Comment ce changement, en fait, se passe ? Donc, dites-nous en commentaire si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. On est intéressé à avoir vos témoignages.
Alors, si tu me permets, Valentin, je suis en train de regarder les commentaires de Sébastien. Et il nous dit que le développement local devient une nécessité vitale face à la mondialisation qui, manifestement, ne peut être gérée humainement. Et c'est aussi un élément intéressant. On a vu en Guadeloupe, en tout cas, et ailleurs aussi, d'ailleurs, des gestes de solidarité. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, moi, qui me passionne chez les êtres humains, c'est qu'on a cette capacité de nous adapter, d'affronter les difficultés en trouvant des solutions. Il y en a qui sont figés, et puis il y en a d'autres qui arrivent à avancer. Et donc là, on a reçu localité dans le post-café, et localité qui avait trouvé un moyen de distribuer les productions locales sur les réseaux sociaux, simplement en mettant en relation les gens qui en avaient besoin. Et on a trouvé ça très intéressant. Et ça fait découvrir justement la puissance de des circuits courts, la puissance de notre capacité aussi à être autonome, enfin à être un peu plus autonome qu'on le pense et capable de gérer notre alimentation avec les petits jardins, avec l'agriculture locale. Mm-hmm. Je trouve que c'est un bon signalement aussi de notre capacité à faire les choses différemment. Donc, si ça peut être inspirant. La question après, c'est de regarder est-ce qu'on est prêt, donc ça c'est le changement de paradigme, est-ce qu'on est prêt à favoriser ce genre d'activité, sachant que ça pourrait être parfois un petit peu plus cher, mais est-ce que consciemment on pourrait se dire, moi je préfère, je choisis local, donc c'est là aussi devenir plus conscient de notre consommation, et des consommateurs, comme on le disait, pour pouvoir choisir ce que nous achetons et ce que nous achetons pas. Donc, choisissons l'essentiel avec aussi une pensée plus des conséquences que ça. Quand je fais quelque chose, quelles sont les conséquences sur le territoire, sur le dans le monde, etc. Et pour faire le lien avec ça aussi, j'ai lu ce matin un article qui me paraissait intéressant, qui mettait en avant le tissu social, comment l'entreprise avait aussi un rôle à jouer. Et certaines entreprises n'ont pas hésité, des entreprises comme Total, enfin des grosses entreprises qui ont décidé de participer à cette solidarité, on va dire, nationale. Comme LVMH qui a mis à disposition L'Oréal, c'est aussi qui a décidé de fabriquer du matériel médical ou des constructeurs automobiles comme PSA et d'autres. Et je trouve que ce nouveau paradigme pourrait être la responsabilité sociale des entreprises, que l'entreprise pourrait avoir un rôle plus important en tant qu'entreprise citoyenne. Donc, comment on peut donner du sens à l'entreprise, comment on peut avoir une vision qui soit une vision engagée finalement, de se dire que si nous avons des collaborateurs, nous apportons de la valeur ajoutée, comment cette valeur ajoutée pourrait être prise en compte dans le système social, prise en compte dans la responsabilité de ce que nous faisons, nous ne voulons pas faire. Donner du sens aussi à ce travail. On peut aussi parler des nouvelles générations qui vont être très sensibles. Donc, il ne faut pas que ce soit un effet marketing, il faut que ce soit vraiment un effet volontaire qui soit suivi d'actions concrètes et qui montre le sens que l'entreprise souhaite donner à ses actions. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour chaque entreprise de chercher, de choisir, de mettre en avant cette vision avec une responsabilité plus large que juste gagner de l'argent pour suffire à payer les salaires.
Effectivement, on a vu même l'entreprise, le groupe Accor aussi a converti plusieurs de leurs infrastructures pour les mettre au service de populations en difficulté, par exemple. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, on a parlé de Total, de L'Oréal, de PSA, il y en a plein d'autres. Il y a une spontanéité ou une réactivité aussi qu'on a vu avec le groupe LVMH, par exemple, qui s'est mobilisé pour produire assez rapidement des gels hydroalcooliques. Et rapidement, en fait, quand on lit dans la presse ou dans les médias, il y a cette notion de nouveau leadership et de l'organisation sociale ou l'organisation à mission. Et il y a quand même cette notion d'authenticité. Est-ce que c'est fait en surface ou pas? Comment faire en sorte que ce soit pas fait pour de faux? Et en fait, est-ce que ça suffit de juste dire qu'on est une organisation sociale et de poser certaines actions comme ça? Pourquoi c'est important finalement
Oui, je trouve intéressant que ce qui se passe en ce moment, mais justement met en avant ces entreprises-là. Il y a cette notion de RSE, tu sais, c'est responsabilité sociale et environnementale qui était des règles qui étaient incitées, imposées un peu par le gouvernement, dans la démarche des entreprises plus responsables. Et finalement, ça relativement pas très bien marché quoi finalement et peut-être que dans cette prise de conscience de ce que nous vivons ces sociétés citoyennes peut-être ces sociétés plus orientées vers cette responsabilité mais sans avoir besoin d'un cadre juridique ou imposé par le gouvernement mais de décider parce que c'est mieux pour ses salariés, parce que c'est mieux pour elle, c'est mieux pour ses clients, c'est mieux pour l'ensemble de la société et l'ensemble de la planète, du pays, de la planète, de faire comme ça. Et donc, ça nécessite en effet d'avoir la confiance, puisque c'est basé sur, il faut garder la confiance de ses partenaires financiers, de ses clients, de ses collaborateurs, de faire les choses avec transparence, de faire les choses avec vérité, enfin, dans la vérité. Tu ne peux pas dire que tu vas faire des choses pour la planète et que derrière, ce ne soit pas vérifiable ou vrai.
Effectivement. C'est vrai que dans l'environnement français, c'était beaucoup, sur les deux dernières années, on parle beaucoup de raison d'être, mais quelque part, la réalité un peu dramatique qu'on vit, enfin, qu'on a vécu et qu'on continue de vivre, a rattrapé un peu cette. Nous a rattrapé, mais un peu ce constat à l'épreuve, parce que c'est pas. Le but, c'est pas d'avoir juste une formulation un peu catchy ou un artifice marketing, c'est la raison d'être, c'est une raison d'agir, c'est une boussole stratégique, et du coup, qui va guider les actions et qui va faire en sorte que toutes les parties prenantes dans l'entreprise vont être réellement mobilisées, en fait. Okay. Et donc, dans les circonstances de confinement ou de crise en général, ben, ça revient essentiel, puisque c'est le sens qui compte.
C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un désengagement, on en a parlé plusieurs fois, le désengagement est important dans les sociétés aujourd'hui et dans les entreprises du monde entier. Pourquoi le désengagement est important? Parce que si tu viens dans une boîte juste pour un salaire, mais tu peux aller dans une autre boîte et finalement tu t'engages pas plus que ça. Oui. Mais ce qui pourrait faire la différence, c'est justement de développer cette notion de sens. Pourquoi je fais les choses? À quoi ça sert? Quel est le but de mon travail? Et comment ce travail peut nourrir des valeurs aussi qui me sont chères cette vision qui me porte aussi, moi je contribue, chacun contribue dans son travail, si c'est fait dans ce sens-là, pour que les choses avancent dans une direction qui est partagée, que nous avons envie d'atteindre ensemble, etc., etc. Et ça permet de pas venir simplement pour son salaire, pas venir simplement pour un patron. S'il est sympa, ben, je bosse pour lui, ça se fait beaucoup ici, je bosse pour toi. Mais de travailler pour une cause qui nous dépasse, et cette notion de sens nous permet de fédérer les gens autour de nous qui sont unis à cette cause, quoi. Donc comment identifier des causes communes, comment identifier ce sens qui va mettre en marche les personnes, comment on va être inspiré par ces causes, par ces entreprises qui vont, comment ces leaders d'entreprise ou ces entreprises pour nous inspirer, nous salariés. C'est aussi intéressant à réfléchir. Il y a plein de solutions, il y a plein d'idées que nous pouvons proposer à travailler ensemble avec les équipes pour regarder les valeurs, regarder la mission qu'on pourrait aller pousser un peu plus loin pour regarder le sens que pourrait donner à nos entreprises.
C'est vrai que en plus, quand on regarde première leçon de management, c'est mission, vision, valeur. Et c'est pas le mission, vision, valeur qu'on va coller sur un site ou sur un mur. C'est cette fameuse boussole stratégique, mission, vision, pour nous aider à prendre des décisions. Et les valeurs, c'est pour encourager ou décourager certains comportements dans l'entreprise et que chaque personne puisse se sentir épanouie au sein de l'entreprise. Et donc, il y a un élément aussi c'est celui de la raison d'être. On voit dans cette période, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en potentielle difficulté. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû se transformer. On parle même de 2 ans de transformation technologique qui ont dû se passer en 2 mois. Entre autres, on a vu le télétravail, mais il y a d'autres entreprises qui ont dû s'adapter. La raison d'être, dès qu'elle est forte et qu'elle est là, elle est clairement définie, en fait, ça peut être un point d'ancrage pour pivoter. Une entreprise qui pivote, c'est une entreprise qui garde sa raison d'être et qui se transforme quelque part et qui s'adapte à la nouvelle réalité en gardant toutes ses équipes, toutes ses ressources et qui va remobiliser ses ressources à différents endroits, mais pour s'adapter à son environnement. Et cette période-là, de confinement d'abord et aujourd'hui de déconfinement pour en demande à beaucoup d'entreprises de se réinventer et de pivoter. Et donc, la raison d'être peut agir comme un pivot.
Oui, tout à fait. C'est l'occasion, je pense, pour toutes les entreprises de se poser des questions. En tout cas, de dire, est-ce qu'on continue comme avant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire? Et il y a cette notion qui nous est chère, à HumanSync, c'est l'océan bleu, notamment. Nous accompagnons les chefs d'entreprise à développer leur vision et dans un sens de dire est-ce que nous voulons faire comme tous les autres font et d'aller dans l'océan rouge là où tous les gens se battent sur le même territoire dans la même
C'est vrai, ceux qui sont capables de pivoter efficacement en fait tirent profit de ça et peuvent avoir un avantage concurrentiel assez énorme. D'ailleurs, il y a Sébastien qui nous a rejoint et qui va pouvoir partager avec nous son témoignage, de voir comment ça s'est passé pour lui. Bonjour Sébastien.
Bonjour, comment vas-tu? Enfin, comment allez-vous?
Impeccable. Ouais, oui, on est deux aujourd'hui.
Écoute, avec une température estivale à Montréal.
Ouais, c'est vrai. À Montréal, c'est...
J'ai même mis mon polo Saint-Martin.
C'est top. Est-ce que toi, tu travailles, est-ce que vous travaillez encore de la maison?
Ah, écoute, oui. La bonne nouvelle, c'est que je reprends au campus de Longueuil, à mon bureau, le 1er juin, donc la semaine prochaine.
Ok, super. Et donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de comment certaines entreprises ont dû s'adapter, notamment avec le télétravail, mais qui, dans certains cas, dans beaucoup de cas, n'étaient pas du vrai télétravail dans le sens où c'était un télétravail de crise en fait pour s'adapter, donc ça a dû être fait d'une certaine manière un peu rapide. Comment ça s'est passé pour vous à l'université de Sherbrooke?
Comme je te l'avais dit la dernière fois, ça s'est vraiment très bien passé. On a su, le service pour lequel je travaille a su se retourner sur une pièce de 10 cents en moins de 24 heures. 24-48 heures, on était à peu près complètement opérationnel. J'ai envie de te dire qu'au bout de 70 heures complets, on était opérationnel et on était à peu près en 48 heures à 50% opérationnel. Donc, on a été très, très vite compte tenu du contexte. Je ne te dirais pas que ça a été bien vécu, par contre. Ça n'a pas nécessairement été facile.
C'était ça ma prochaine question. Et dire, OK, parce que c'est d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue opérationnel, on peut se dire, OK, top, c'est une prouesse de pouvoir s'adapter aussi rapidement, surtout pour une organisation comme une université qui est une institution et qui il y a beaucoup de parties prenantes, il y a beaucoup de pièces dans cette machine. Comment ça a été annoncé? Comment ça a été communiqué? Est-ce que c'était des initiatives individuelles ou inter-équipe? Ou comment ça a été?
Je te dirais que comment ça a été annoncé? Quand on a annoncé qu'on était confinés, en fait, qu'il y avait un gros problème, on l'a compris très vite qu'il allait y avoir un souci. Et puis là, c'est le service qui a pris les choses en main. Donc, j'ai envie de te dire que c'est parti d'en haut, en fait. Et puis, on a la chance à l'université d'avoir un médecin comme recteur. Donc, il connaît un petit peu les enjeux de ce genre de situation. Après, comment ça a été vécu? Je te dirais que chaque personne le vit différemment. De mon côté, par exemple, je l'ai plutôt bien vécu. Il y en a qui l'ont vraiment vécu de manière exceptionnellement positive, d'autres de manière excessivement négative. Je ne trahirais pas mon boss si je te disais que lui a trouvé ça quand même difficile sur la fin, simplement parce que les rapports humains lui manquent, mais ça a été aussi l'opportunité pour lui de communiquer pendant les premiers temps presque à tous les jours avec ses équipes. Donc ça a été un mal pour un bien. Sans vouloir être trop clivant, je te dirais que il n'y a pas un déconfinement, je dis tout ça, mais il y aura des déconfinements. Ce n'est pas aussi simple qu'on n'a pas une seule réponse à tout ça, en fait. Je connais bien malin celui qui arrive à dire « Ah ouais, c'est maintenant qu'il faut déconfiner parce que et il faut que tout le monde revienne au travail parce que c'est comme ça, parce qu'il faut que ça fonctionne. » C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as… Dans les challenges qui ont été, parce que tu dis que ça n'a pas été bien vécu par tout le monde, est-ce que tu as observé c'est quoi les plus gros challenges que vous avez vus? Là où ça a fait grincer des dents?
Alors, je te dirais, je vais te prendre des exemples précis.
Oui,
Je vais te parler de ma sœur qui, elle, te dit que le télétravail, le problème, c'est que quand quelqu'un, tu ne veux pas lui parler, eh ben, c'est possible. Il suffit qu'il, tu sais, ne soit jamais joignable. Mmh. C'est moins évident d'avoir des interactions. Donc, quand tu es en rapport de hiérarchie, si la personne veut fuir un petit peu, c'est moins évident. Parfois, il y a des gens qui sont peut-être qui ont profité du télétravail pour peut-être un peu ben, lever le pied. Tu en as d'autres pour qui ça a été carrément l'inverse, où ça a été le double de travail pour le même résultat. Donc, c'était compliqué parce qu'il a fallu une adaptation à la techno, il a fallu se remettre en cause, il a fallu fonctionner différemment. Je vais te prendre un exemple aussi qui est très personnel. Je suis un fan de techno, mais je ne supporte pas les courriels. Je préfère toujours un coup de fil au message texte ou au message WhatsApp. Or, la génération que l'on a en l'état actuel d'étudiants fonctionne beaucoup par message ou par courriel.
Mais oui.
Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de différent. Avant, moi, il me suffit d'aller dans le bureau d'à côté pour avoir une réponse. Là, il faut que j'envoie un message.
Et
la personne va le prendre et attendre que la personne revienne. Et parfois, là, il y a des moments où je suis coincé pendant 2 heures, 3 heures sans avoir de réponse, alors qu'avant, il me suffisait d'aller dans le bureau d'à côté. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça a obligé à repenser les modes de communication.
C'est vrai. Ça me fait penser, en fait, c'est vrai qu'on peut pas fonctionner avec le télétravail beaucoup plus sur un mode de communication qui est asynchrone. C'est-à-dire qu'on communique chacun dès qu'on est là, étant donné qu'on travaille à distance de la maison, on peut adapter nos horaires et donc on n'est pas toujours connecté en même temps. Et donc, on va utiliser beaucoup plus l'écrit et aussi la communication asynchrone. Donc, on ne peut pas se brancher sur une appli comme Slack, par exemple, et de dire « Salut, comment ça va ?» et d'attendre que la personne réponde avant d'engager la conversation, parce que ça se trouve, elle va se connecter dans une heure. Donc, c'est là où il y a un décalage à ce niveau-là.
Et ça aussi, va être un des gros défis. Je te disais, ça va être un des gros défis du manager de demain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va non seulement gérer des gens, mais aussi gérer des modes de communication. Il va devoir un petit peu savoir et canaliser un petit peu tout ça. Il va devoir dire, écoutez, pour les conversations entre nous, là où on veut rigoler, ben, ça va être un Slack ou un WhatsApp. Dès qu'il y a quelque chose d'important qui est pour tout le monde, ben, c'est un courriel. Sinon, on privilégie le mode de communication via des plateformes comme Teams, Zoom ou autre pour pouvoir échanger directement quand il y a des problématiques de personne à personne. Donc, il va peut-être y avoir une redéfinition finalement des modes de communication au travers des modes de gestion du personnel. Avant, ce n'était pas compliqué. On te disait, ben, il y a plusieurs styles de management, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs... On va devoir peut-être dans le futur, puis je dis peut-être parce que je ne sais pas si on va reprendre le boulot comme avant, de la même manière. Personnellement, je ne crois pas, en tout cas, j'espère pas. Je te dirais que le futur gestionnaire, ce sera celui qui arrivera non seulement à gérer les hommes, mais aussi les modes de communication en tant que tel, et qui sera en plus intégré la dimension de la relation humaine. Je vais te poser une question. Tu sais quel est le coût du pied carré ou du mètre carré à Montréal de bureau en centre-ville? Bon, il y a des entreprises qui dépensent des fortunes dans les locaux. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ne... On dira aux salariés, écoute, on va te prendre en charge 50% de ton débit Internet. On va te fournir des outils. Je te prends un exemple, ma conjointe qui est au gouvernement fédéral, qui reprend son travail dès qu'elle aura terminé son congé maternité. Son boss l'a contacté pour le mois de novembre en disant « Écoute, voilà de quoi tu as besoin. » Alors, un écran, une chaise ergonomique, un bureau, de quoi tu as besoin pour pouvoir fonctionner depuis la maison.
Mais oui.
Donc, ça veut dire qu'on commence à penser à ça. Mais ils ont pensé aux outils, mais est-ce qu'ils ont pensé au mode de communication? Ça, j'en suis pas sûr. J'ai un autre exemple qui est pertinent. J'ai un ami qui se reconnaîtra s'il nous écoute, qui bosse pour la ville de Montréal. OK. Et là, il me disait « Moi, là, je gère mes équipes par résultat. J'en ai rien à faire qu'ils travaillent 5 heures ou 7 heures. Ce n'est pas mon problème. Ce que je veux,
5 minutes.
ou 5 minutes, si. Et puis là, il a une employée qui est capable de lui fournir un résultat en moins de temps que les autres. On va dire, est-ce que je vais vraiment la bloquer de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures ou 5 heures de l'après-midi alors que finalement, elle me fournit le même rendement que les autres, voire même supérieur dans un temps qui est moins important. On était passé d'une culture où on gérait le temps, où on gérait des processus, à une culture où on risque de gérer le résultat, où on devrait aller vers le résultat. Et le problème, c'est que ce n'est pas évident pour un gestionnaire de la vieille école de voir une personne en lui disant « Bah, écoute, tu as fini ton boulot ?»« Oui. Bah, écoute, super, rentre chez toi ou arrête, on va boire un verre. » Ça, là, écoute, je ne sais pas si tu imagines que en Guadeloupe, un gars qui arriverait le matin à 8h ou qui arriverait à 6h du matin parce qu'il s'est levé tôt et qu'à 10h, il regarderait son poste, hey, ça y est, j'ai terminé ce que j'avais à faire, bonne journée. Le gars, il le regarderait en disant, mais écoute, non, c'est pas possible, on va te trouver quelque chose à faire. Et la même, une autre personne qui commencera à 9h ferait la même quantité de boulot, mais jusqu'à 5h. Là, il y aurait des histoires d'inégalité, mais pourquoi il part plus vite? Ouais, mais c'est parce qu'il termine plus vite, ben, il faut l'occuper, ouais, mais il va avoir un rendement supérieur. La notion de résultat, en fait, n'est pas vraiment au cœur des organisations.
C'est quelque chose qu'on observe effectivement. Puis, bon, dans les différentes expérimentations qui ont été faites, il y a des entreprises comme, pour en citer une, c'est Buffer, qui est une entreprise en ligne et qui fonctionne 100% remote. Donc, ils ont une équipe qui est répartie partout dans le monde. Et puis, eux, depuis le jour 1, en fait, ils travaillent en remote. Et un des messages clés qu'on observe, c'est dans une organisation en remote, quand c'est possible, évidemment, il y a certains métiers où c'est plus compliqué, mais quand c'est le cas, en fait, le résultat, le output de notre travail est beaucoup plus important que la quantité d'heures qu'on va mettre. Et certaines personnes vont être beaucoup plus efficaces en travaillant le matin. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que quand on travaille en remote, c'est aussi l'idée de pouvoir. L'expérimentation, en fait, montre qu'il y a aussi le où est-ce qu'on travaille. C'est-à-dire que l'environnement, de pouvoir essayer différents environnements et d'encourager ses équipes à aller peut-être dans un café ou de pas nécessairement rester chez soi, mais d'essayer d'autres endroits pour voir où est-ce qu'ils sont le plus productifs ou le plus confortables. Et donc ça c'est un élément intéressant. Et pour rebondir à ce que tu disais sur peut-être ce qu'on peut observer dans des modes de management plus classiques, pour pas dire poussiéreux parfois, mais c'est si la personne a terminé sa tâche du jour et qu'elle rentre à la maison et que le chef d'entreprise peut se dire oui, mais attends, il y a d'autres choses à faire. Mais là, ça fait repenser la notion de management et aussi est-ce que, on parlait de sens au début de cet instant T. Est-ce que le sens et la mission de l'entreprise est définie? Est-ce que chaque personne, membre de l'équipe, peut savoir où est-ce que je peux aller un peu plus loin, repousser un petit peu les limites? Est-ce qu'il sait dans quelle direction il faut aller? Il peut être encouragé et récompensé et reconnu pour avoir fait cet effort-là, ou c'est vraiment, bon, je fais le minimum et puis après, basta.
Je te dirais que tout ça, c'est coincé par quelque chose qui est un gros préalable. Aujourd'hui, le salaire se négocie à l'heure. Mm-hmm. Le salaire ne s'est jamais négocié aux tâches ou aux résultats.
Aux résultats, oui.
On a des indicateurs de résultats, mais ils n'influencent pas nécessairement le salaire, en tout cas pas dans la majorité des secteurs. Puis la question que j'ai envie de te poser, ça pourrait être légitime dans l'absolu. Si jamais on disait à la personne, écoute, tu travailles, tu as atteint ton résultat, mais à côté de ça, ce qu'on te demande, c'est de travailler après, quand tu as atteint tes résultats, tes objectifs. Si tu les dépasses, souvent, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des incentives, c'est-à-dire qu'on rémunère à la variable au-dessus, c'est-à-dire qu'on s'aligne un petit peu sur le plus, on va te donner du plus. Mais on a je connais très peu de chefs d'entreprise qui ont dit à ces salariés ultra performants ou très performants, qu'est-ce que tu penserais de réfléchir à c'est quoi ton poste demain? Quelle valeur ajoutée tu pourras amener encore? Vers quoi tu pourrais aller? Qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir développer? Ou est-ce que tu aimerais, toi, peut-être développer quelque chose? Il n'y a pas ou peu cette réflexion-là qui est faite. Alors, et on va te dire, le premier réflexe que les patrons vont te dire souvent, puis ça, c'est singulièrement une certaine génération, malheureusement, qui vont te dire, oui, mais moi, là, je les paye. Oui, je suis d'accord, tu les payes. C'est vrai. Mais si tu as placé, si ta mission, là, c'est d'obtenir un résultat pour tes clients, et c'est juste ta force de travail, c'est juste les gens que tu payes, je ne suis pas sûr que tu aies vraiment compris ce que c'est déjà qu'une marque employeur. Je ne suis pas sûr que tu aies vraiment compris par quoi passer le développement de ton organisation. Parce que tout seul, ta boîte, elle ne va pas fonctionner.
Effectivement, là, c'est un paradigme où on comprend. Je laisse répondre, j'aurais juste après. C'est où c'est considérer l'humain comme une ressource, en fait. Ouais, je le paye, bon, ben, c'est à moi, quoi.
Et... c'est ça. C'est vraiment une façon de penser l'entreprise qui dit chaque personne est dans une tâche et c'est comme quand on était à la chaîne, quoi. Au début, chacun avait ses tâches à faire. Et en fait, on oublie le lien social, on oublie la coopération, on oublie la performance collective. Et à ce moment-là, on se coupe de l'intelligence collective, on se coupe de toute une partie de la valeur ajoutée, que une personne plus une personne n'égale pas deux personnes, mais ça peut être égal à trois personnes, en fait,
dans le terme de rendement, oui.
De rendement ou d'idées innovantes, etc., etc. Et là, quand on réfléchit comme ça, la personne a fini son travail. Effectivement, l'idée, c'est de repenser le travail de chacun en fonction de ce qu'il a envie de faire, de ses talents, en fonction de la mission de l'entreprise, comment il peut contribuer. Et puis aussi d'intégrer la notion de collectif. Parce que si moi j'ai fini ce que j'avais à faire, mais je peux aussi aider l'autre, et puis en fait on y arrive ensemble pour être heureux d'avoir réussi à accomplir la mission plus rapidement, la mission de l'équipe. Donc c'est une notion qui peut être réfléchie plus en individuel ou en collectif, et cette notion de collectif, je crois, a tout son sens dans cette crise sociale, cette crise sanitaire, où on voit que l'importance du collectif aussi, on est rien si on est tout seul dans son coin, mais collectivement, on est beaucoup plus fort. Je crois que toutes les sociétés, toutes les modèles de qui font société, enfin dans la nature, nous montrent que la coopération est vraiment une des forces pour arriver à traverser le temps et les épreuves du temps et de la vie. Et donc, je pense que c'est aussi une notion qu'il faut vraiment dans le nouveau paradigme dont tu parlais. C'est un élément à prendre en compte, à mettre en place dans chaque organisation.
Mais je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes à cheval entre la Guadeloupe et Montréal, combien d'entreprises, selon vous, ont déjà un modèle d'affaires clair, c'est-à-dire établi dans un canevas de modèle d'affaires, on appelle ça un business model canvas, okay. Ça, vous savez de quoi je parle, combien en ont, et puis combien sont en train de repenser ce modèle par rapport à la crise qui nous a occupés?
Ah, c'est une excellente question.
Est-ce qu'il y a des insights par rapport à ça sur la Guadeloupe? Alors,
j'ai pas de chiffres que je pourrais te donner. Précisément, l'impression, le sentiment que j'ai, c'est effectivement qu'il y en a un peu qui sont dans un modèle structuré ou structurant qui permettrait de partager, de construire de façon claire un modèle qui soit partagé avec les autres. Ce que je sais, c'est qu'il y a des chefs d'entreprise qui s'intéressent à ça, s'intéressent à développer des modèles d'affaires plus cohérents et plus structurés, notamment avec l'association APM, on reçoit des experts qui parlent de ça, et donc ça fait réfléchir les chefs d'entreprise.
Ça fait son chemin. Ouais.
Ça fait son chemin. Mais te donner un chiffre en termes de quantité, j'aurais du mal.
Ce que j'ai observé, c'est aussi dans les discussions, il y a une volonté de vouloir changer, parce qu'il y a des prises de conscience qui sont faites. Avant le confinement, mais le confinement a mis en exergue certains éléments. Maintenant, l'importance d'avoir un modèle d'affaires qui est clairement défini permet de pouvoir le communiquer, d'avoir une base sur laquelle tout le monde va pouvoir s'entendre.
Ah ben justement, je serais curieux d'une expérience. C'est tu prends un BMC vierge, on en a, je pense que c'est facile à trouver.
Oui.
Tu le donnes à un chef d'entreprise. Tu prends le même BMC vierge, tu le donnes aux salariés et tu leur dis chacun de votre côté, faites-le.
Ouais, il y a de fortes chances que aujourd'hui, je ne sais pas si.
C'est une expérience, ça. Je l'ai fait une fois. Je peux t'assurer que ça fait peur.
Mmh.
C'est que non seulement tu t'aperçois que les salariés ne comprennent pas comment l'organisation fonctionne, les trois quarts du temps, ils ont de super bonnes idées. Ils ont des idées plus claires de la vision. Exactement, ce BMC-là. Ils ont une idée très claire de la vision, de la mission. mais pas nécessairement des valeurs qui les animent. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas du tout partagé. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, dans un monde où on va y avoir de plus en plus de télétravail, de travail à distance, etc., si tu en es juste à être réduit sur une case, mais que tu ne sais pas précisément comment l'organisation fonctionne, ben là, on va avoir un vrai, vrai, vrai problème. Tout à l'heure, on parlait des circuits courts. Je parlais du développement local, je disais qu'il faut que ça soit passé par le développement local. Ben, simplement parce qu'on appréhende beaucoup mieux les enjeux quand on les a, quand on est capable de les situer dans l'espace. Mais moi, là, j'ai aucune espèce d'idée des enjeux qu'il y a du multinational sur la Chine, sur l'Australie, sur l'Amérique du Sud. Et si j'étais salarié, même à un poste clé, il y a un directeur marketing, je ne suis pas sûr qu'il appréhende tous les enjeux spécifiques de chaque territoire. Et pourtant, il dirige de manière internationale.
Et oui. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de pensée globale, c'est vrai. Mais il y a aussi une réflexion locale à avoir pour pouvoir avoir une action locale pertinente, en fait. D'ailleurs, pour compléter, c'est vrai, ce qu'on a régulièrement observé, et c'est aussi une manière qu'on utilise, c'est un des leviers qu'on utilise pour faire des transformations de culture d'entreprise et justement aider les entreprises à pivoter et à se transformer, c'est la notion de valeur. Et on regarde que souvent, il y a beaucoup d'entreprises, d'institutions, d'organisations, que ce soit des petites entreprises de 10 employés ou des plus grosses organisations de 700, 900 000 personnes, où la notion de valeur n'est pas nécessairement définie. C'est vrai que la culture d'entreprise, elle existe, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire, c'est quelque chose qui est là. Et on peut le décider de manière délibérée ou on peut juste subir quelque part la culture d'entreprise. Et de la même manière, pour les valeurs, une organisation peut dire, voici les valeurs que je souhaite mettre en place dans mon organisation et avec lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour récompenser certains comportements ou pour dire, ce comportement-là, c'est pas quelque chose qu'on veut voir dans l'entreprise. Aussi pour aider le recrutement, on en avait parlé avec Sébastien lors d'une pause café. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Parce que, en fait, quand on prend les valeurs quelque part et qu'on peut demander à chaque individu, on se rend compte assez rapidement qu'on peut recréer un ensemble de valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer pour créer une culture d'entreprise qui va être vécue par tous les membres de l'organisation. Et c'est extrêmement puissant quand il s'agit de remobiliser chaque personne et de pouvoir aider l'entreprise à pivoter, que ce soit pour une transformation ou simplement pour se préparer pour le futur. Jacques, je te voyais acquiescer, excusez.
Oui, mais tout à fait. Mais, je ne vais peut-être pas dérouler ce thème-là parce que c'est un thème qui est très long. On arrive peut-être à la fin de l'instant T. C'est vrai que quand on fait cet exercice avec des personnes, on a des organisations rapidement qui peuvent être 700 personnes. On accompagne à la transformation, à la culture d'entreprise, à la réingénierie culturelle. Le fait de simplement de poser des questions sur les valeurs. Quelles sont mes valeurs personnelles? Quelles sont les valeurs de l'entreprise, de l'organisation. On voit souvent qu'il y a un écart. Mais les valeurs que je vis au quotidien ne correspondent pas à mes valeurs, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis réellement? Et là, quand on voit ce que les gens nous disent, ça fait peur. Quand les valeurs sont alignées, quand les valeurs ne sont pas alignées, c'est deux mondes différents. Donc, le travail qu'on propose parfois, c'est de travailler ensemble tout le personnel à regarder quelles sont les valeurs qui m'animent, à regarder les valeurs de l'entreprise et à regarder comment on peut ou pas être en alignement avec les valeurs de l'entreprise qui peuvent évoluer ou mes valeurs qui peuvent évoluer et comment les faire se rejoindre. Le travail qui est fait à ce moment-là permet aux gens de vraiment faire un travail de conscientisation de ce qui est important pour soi et que je vais trouver dans mon entreprise ou que je ne trouve pas dans mon entreprise ou qu'est-ce qu'il faudrait que je trouve dans mon entreprise pour nourrir ces valeurs. Et ça permet d'avancer dans la direction d'un accord valeur entreprise valeur salarié qui déjà permet d'avancer sur une culture et développer une culture commune qui soit plus épanouissante. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Donc, j'avais juste une dernière, c'est une question à Sébastien qui était, il parlait de nouveaux paradigmes. Quel était le nouveau paradigme que tu envisageais? Est-ce que tu parles de ça? Est-ce que tu avais une idée? On a parlé du business model, on a parlé de la vision. Est-ce que du circuit court? Est-ce que toi, tu voyais les choses qui seraient...
Tu parlais d'un nouveau paradigme humain plutôt qu'un redémarrage économique.
Oula, et là, je ne vais pas me faire des copains. Là. écoute, je vais être très clair avec toi. Déjà, l'écologie n'est pas un programme politique. Donc, mais l'écologie doit faire partie du programme. Ouais. Donc, je te dirais, vous parliez d'océan bleu, d'océan rouge. Moi, j'ai envie de te dire que parlons d'un océan vert. C'est-à-dire redéfinir, par exemple... une place sérieuse sur le développement durable au sein des organisations. Il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, notamment au Canada, sur une norme de développement durable. Mais dans toutes ses dimensions, pas simplement écologique. Développement durable, c'est-à-dire que l'organisation puisse intégrer son approche dans une approche beaucoup plus large que simplement l'écologie. Donc, et puis il y a une norme qui a été créée là-dessus qui s'appelle la BNQ 21000, je crois, que tu pourrais peut-être mettre le lien là-dessus. C'est un prof de l'université d'ailleurs qui a développé cette norme. Donc, parler d'un paradigme où on te dirait, ok, d'accord, un triptyque, création de valeur, oui, redéfinir la notion de valeur, justement. Mais la mettre au cœur le développement humain et le développement également de notre société au travers d'un filtre qui serait, par exemple, l'impact écologique que l'on a. Et puis, je ne parle pas d'empreinte carbone en tant que telle. Pas réduire l'empreinte carbone. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'annuler, l'empreinte, quelque part? De trouver un moyen de redévelopper quelque chose dans ce goût-là. Ce n'est pas évident comme question. Mais c'est certain que ça va être un des défis aujourd'hui. On parlait des personnes qui sont en train de... Avec ma conjointe, on avait une discussion très, très, très sportive où je disais, ouais, mais tu vois, c'est aujourd'hui, notre problème, c'est que l'être humain va vivre de plus en plus longtemps. Comme il vit de plus en plus longtemps, on sacrifie quelque part... On sacrifie quelque part petit à petit aussi une génération plus jeune. On ne cède pas la place. Ce renouvellement ne se passe plus. Imaginons que demain matin, on ait une solution qui permet de guérir toutes les maladies, tous les problèmes de faim. Qu'est-ce que le monde va devenir? On va expliquer aux gens, ok, mais il ne faut plus faire d'enfants. Parce qu'on n'a plus la place. Donc, tu as toute une réflexion à avoir par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, permettre aux gens de vivre plus longtemps, est-ce qu'on devrait permettre aux gens de vivre plus longtemps ou permettre aux gens de vivre mieux? C'est une question qu'on devrait se poser, là.
On discutait avec le médecin Frédéric Costa sur justement le sens qu'on va donner à la notion de santé publique et on parlait notamment de la charte d'Ottawa. Et effectivement, on parle de bien-être plutôt que de curer la maladie, mais la notion de bien-être général, de bien-être dans la société, et qui intègre l'environnement, en fait. Puisque c'est l'environnement on est intégré dans l'environnement, en fait. Donc, effectivement, Sébastien, ce sont des sujets qui sont interreliés.
Et puis, pour terminer, je te dirais que, à mon sens, en tout cas, le véritable défi, ça va être d'avoir le courage de se poser ces questions-là. Ça va être au bout d'un moment de dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, c'est bête à dire, mais on va être face à des choix. Et puis, ces choix ne supporteront aucun compromis. Ça sera ou ça sera noir ou ça sera blanc. On a pu, pendant des années, jouer avec du gris. Je pense que si on ne prend pas des décisions et qu'on ne va pas au bout, on va dans un mur. Notre recteur, par exemple, a pris la décision de dire, ok, nous, on va faire du mixte à l'université. C'est-à-dire qu'il y aura des cours. Les gens seront présents sur place et on va faire aussi des cours à distance. Écoute, ça n'a pas été une décision facile qu'il a prise. Mais au bout d'un moment, il a dit, écoutez, on est une université, on doit avoir des relations entre nous, ça ne peut pas juste se passer au travers d'écran. Ce n'est pas une décision qui a été facile. Bon, là, c'est en train de suivre, les organisations sont en train de suivre, les cégeps, les universités sont en train de suivre, mais c'est pas évident. Ce n'est pas des décisions faciles. Comme quelqu'un qui va te dire, nous, on prend la décision de tout faire maintenant à distance. ben, il y aura un impact sur la qualité de l'enseignement, il y aura un impact sur la qualité des relations humaines, mais ce n'est pas non plus une décision facile. Mais l'une ou l'autre, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise.
100%. Et super Sébastien, mais merci beaucoup pour ton témoignage puis tes perspectives toujours pertinentes. On se voit une prochaine fois. Je te souhaite une belle journée ensoleillée ici à Montréal. Ça va, une météo estivale.
Même un peu chaud. Un peu chaud.
Ouais, un peu plus chaud. Merci
pour toi. À très bientôt. Et merci
de m'avoir invité. Bye
bye.
Ça fait plaisir. Bye bye. Super. Ok. Donc super. Donc Sébastien, c'était chouette de pouvoir le voir. D'ailleurs, le format instanté, c'est pour ça, en fait, c'est pour vous. Vous pouvez, comme Sébastien, nous rejoindre. On partage en commentaire le lien. Donc, vous pouvez directement nous rejoindre comme ça sur le live en vidéo. Et puis, on peut converser avec vous, échanger des témoignages. Ou aussi, si vous avez des questions, des challenges que vous vivez dans vos organisations, que vous soyez un futur entrepreneur ou vous êtes déjà un dirigeant ou un chef d'entreprise, leader, manager, quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répond avec Jean-Jacques, avec d'autres aussi. Donc là, il est 8h30, on arrive à la fin de l'instant T pour ce mercredi 27 mai, mais je vous encourage à nous écrire sur l'adresse email live@humanslink.com. si vous souhaitez participer au prochain live instanté qui revient la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos questions, vos témoignages, et puis on pourra vous inviter à participer avec nous. Et comme ça, on garde ce format interactif. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu voulais
J'ai vu aussi Peggy, les témoignages de Jean Maigre et des personnes qui nous... On n'a pas pu relever tous les témoignages et tous les... voilà. Merci à Peggy, merci à tous ceux qui ont participé, merci à Sébastien. Voilà, si ça vous a plu, on continue tous les mercredis. Venez apporter vos questions et puis on échange des bonnes pratiques, on échange de vos impressions et on essaie de répondre à vos questionnements sur la réalité que vous vivez, sur le monde d'aujourd'hui, le monde de demain.
Effectivement. Et puis, d'ailleurs, on se retrouve pour le prochain programme de live cette semaine. Ça va être vendredi et on va pouvoir discuter des choix de société, justement. Donc, sur un format différent, on va recevoir Frédéric Costa, qui est un docteur spécialiste en santé publique, qui, lui, est à Paris en ce moment. Et ça va être la troisième fois qu'on va le recevoir pour couvrir un autre sujet. Et on va parler notamment de pourquoi les vaccins, la notion de vaccin. C'est un choix de société et donc avec Humansync c'est tout l'intérêt de pouvoir construire les organisations et aussi le monde dont l'humanité a besoin. Et donc il y aura un framework de réflexion et de prise de décision qu'on va pouvoir partager avec vous vendredi. Donc c'est vendredi 13h pour la pause café. Est-ce que il y a autre chose que tu voulais rajouter Jean-Jacques pour aujourd'hui?
Non, je vous souhaite à tous une excellente journée.
Super. Ouais.
À bientôt.
À bientôt, mais soyez humains, soyez extraordinaires. On se voit vendredi. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.